On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions,
afin que le monde et la Terre tournent plus rond.
En 1973, un groupe de jeunes d'un mouvement gauchiste prend la route à bord d'une roulotte. Quittant les banlieues industrielles où ils ont lutté en mai 68, ces anarchistes forts en gueule décident de s'installer à la campagne et de vivre du travail de la terre. Grâce à des fonds récoltés, ils rachètent une colline de 300 hectares de maquis en Haute-Provence, sur la commune de Liman, et s'organisent en communauté agricole. La première coopérative, Longomaille, est née. Leur objectif, changer de vie tout en changeant le monde. Avec William comme guide, je vous emmène pour une balade sonore à travers Longomaille, une communauté qu'il définit comme communauté anarchiste. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous découvrons les motivations qui peuvent pousser les uns et les autres à vouloir vivre autrement.
Qu'est-ce qui t'a amené finalement ici? Comment est-ce que tu atterris à Longomaille?
Comment j'ai atterri à Longomaille? Vraiment par hasard en fait. Je venais juste de... J'ai quitté mon taf. J'étais médiateur social avant. J'ai quitté mon taf et puis la vie que j'avais. Et puis je me suis mis à... J'étais squatté chez des oncles, des tantes, des amis ou quoi que ce soit, cherchant un peu ce que je voulais faire, quoi. Et puis, j'ai toujours eu un peu cette idée de vouloir vivre dans un collectif, etc. On en parlait avec des amis et on se rendait compte justement que c'était assez difficile d'un point de vue pognon, quoi. Et puis, un jour au hasard, je suis arrivé dans une communauté en Ardèche, qui s'appelle le Hameau des Buis. Enfin, communauté, c'est un grand mot, quoi. Je suis arrivé au Hameau des Buis, puis j'ai pas senti que c'était exactement ce que je voulais. Et là-bas, on m'a parlé en fait de Longomaille, quoi. On m'a dit, il y a une communauté anarchiste dans le sud de la France. Là, j'ai des petites étoiles dans les yeux. Parce qu'en fait, ces deux termes-là, ensemble, c'était à peu près ce qui me correspondait, quoi. Et donc, j'aurais demandé de m'en parler, mais ils ne connaissaient pas des masses, quoi. Donc, j'ai téléphoné, je suis venu 3 jours plus tard. Et puis, bah, je suis encore là, quoi. C'est vraiment le hasard, quoi. Je suis dit 3 jours avant d'arriver ici, je ne connaissais pas le lieu, quoi. Ouais, c'était vraiment chouette pour ça.
Et comment est-ce qu'on s'insère dans un lieu? Donc, tu débarques, tu ne connais personne. Tu es d'abord dans une phase d'observation pour voir un petit peu ce qui se passe autour de toi. Rapidement, tu te dis, bah tiens, c'est ici que je vais essayer de développer quelque chose.
Ouais, c'est clair. Bah, en fait, ouais, t'arrives, c'est clair que tu connais personne, c'est un peu complexe. Bon, il y a la baraque d'accueil où il y a d'autres personnes qui sont comme toi, donc t'arrives à créer des liens avec eux. Puis eux, ils sont là depuis quelques semaines, donc ils ont fait des liens aussi avec d'autres personnes. Donc t'arrives à comme ça à faire des petites connexions, à rencontrer des gens, à déconner avec eux. Puis pour peu que tu sois sympa ou quoi, t'arrives vite à causer avec les gens, quoi. Mais. Ouais, puis après, tu te rends compte que ça peut vraiment t'apporter, que tu. Ça te change vraiment, quoi. Toutes les perceptions de la vie que tu peux avoir, ça change quand même pas mal de choses, quoi. Toi, le rapport à l'effort physique, même juste ça, quoi. C'est quelque chose, tu te rends compte que c'est pas forcément quelque chose de si dégueulasse que ça, si... tu vois, c'est pas paupérisant ou quoi, tu vois, c'est juste vraiment chouette, quoi. Donc petit à petit, tu te transformes, quoi. Puis t'apprends à vivre avec les gens, t'apprends à penser à eux, t'apprends à tout ça, quoi. C'est quelque chose d'assez chouette à ce niveau-là. Et puis après, petit à petit, bah, tu apprends tout ça, et puis tu commences à faire tes petits projets, et puis voilà, quoi.
Au mois des Buis, on t'a parlé donc de Longomaille, en te disant que c'était une communauté anarchique. Aujourd'hui, si on te demande Longomaille, c'est quoi? Tu le présenterais comment?
Une communauté anarchiste. Ah ouais, j'y tiens. C'est vraiment ça que ça doit rester aussi, quoi. On doit surtout pas avoir de chef, pas de pognon entre nous. De toute façon, là où tout est mis en commun, il n'y a pas besoin de pognon, quoi. Ça, c'est clair et net. Si un jour ça devait changer, si on devait avoir du pognon entre nous ou quoi que ce soit, je me barre, quoi. Et puis, ouais, ça aurait plus aucun sens, quoi. Et puis même si un jour il devait y avoir des gens vraiment charismatiques, enfin, quelqu'un de vraiment charismatique qui devait arriver et commencer à gérer un peu le truc, je me barrerais aussi, quoi. Et puis, ouais, c'est surtout pas ça, quoi. On peut vivre sans chef, on peut vivre sans pognon, on peut vivre sans idéologie, en fin de compte, quoi. Parce que l'anarchisme, c'est, même si c'est quelque chose d'assez... c'est une idée, quoi. Mais ça reste une volonté un peu d'absence d'idée, quoi. C'est-à-dire que... Les gens viennent souvent dire « Ouais, mais vous êtes contre, mais qu'est-ce que vous proposez derrière ?» C'est comme si tu demandais à un athée ce qu'il proposait à la place de Dieu, quoi. Il propose rien, il veut rien à la place de Dieu. Bah, c'est pareil pour nous, quoi. On veut rien à la place des hommes politiques, on veut rien, quoi. À la place du pognon, on veut rien. Y a pas de... C'est pas qu'on se force à rien vouloir proposer, c'est juste qu'on veut rien derrière, quoi. C'est notre idée, ça. Dans l'anarchisme, quoi, tu vois, de se dire « Bah, ça, on n'en veut pas, quoi. » Comme un athée dirait « Moi, je veux pas l'idée de Dieu, quoi, tu vois. » c'est quelque chose qui tombe sous le sens où personne ne le questionne en disant mais qu'est-ce que tu proposes derrière quoi. Bah, c'est pareil pour la politique, c'est pareil pour tout ça quoi. Nous, on veut juste vivre au jour le jour avec nos amis et vivre comme ça. Après, en plus, il y a un truc assez intéressant quoi. T'as forcément un sentiment un peu tribal qui se met en place après. On est une sorte d'unité familiale quoi. On est 100 personnes, on fait partie de la même famille quoi. Tu vois, personne qui sera laissé derrière. Il y a vraiment une solidarité. Plus qui est informel, quoi. Et toi, il n'y a pas besoin d'avoir une caisse de sécurité sociale pour que les gens s'entraident, quoi. Du moment où les gens c'est ce qu'ils veulent, il n'y a pas besoin de ça, quoi. Donc toi, ça remet en cause l'État aussi, ça. Ici, je vois ça comme une communauté anarchiste, quoi, dans ce sens-là. Clairement.
Vous pouvoir développer cette communauté, il faut quand même qu'il y ait une notion d'argent, de pognon. Tu disais, il n'y a pas d'histoire de pognon entre nous, mais l'argent existe quand même. Il vient d'où ?
L'argent, il vient de ce qu'on produit en partie, quoi. Et puis, on reçoit des dons, des gens qui viennent nous aider aussi, quoi. Il y a toute cette logique-là. Parce qu'il y a forcément des gens qui, même s'ils n'ont pas forcément envie ou la possibilité de vivre ce que nous on vit, ils ont quand même envie que ça existe, quoi. Donc ils nous aident un peu, ils nous filent un peu de pognon, quoi. Donc c'est comme ça qu'on vit principalement. Et après, le truc, c'est que du pognon, on en a besoin parce qu'on n'est pas sur une île, tu vois, on n'est pas sur notre planète, on n'est pas tout ça, quoi. Et puis nos bagnoles, il faut bien qu'elles tournent. Comme je disais tout à l'heure, bon, c'était hors micro, mais... Voilà, on ne peut pas produire nos bagnoles, on n'est pas encore en capacité de produire notre carburant ou quoi que tout ça, quoi. Donc fatalement, on a besoin de pognon pour vivre. Mais après, c'est entre nous, quoi. C'est juste que, toi, on a un grand ménage, quoi. Toi, c'est comme, toi, avec ta femme, tu n'as pas besoin de pognon entre elle et toi, quoi, tu vois. Parce que c'est une unité familiale, il y a tout ça qui... Mais ici, c'est pareil, quoi. On est une unité familiale de 100 personnes, voire beaucoup plus avec toutes les autres coopératives, parce qu'avec les autres coopératives, il n'y a pas d'échange de marchands non plus, quoi. Et même pas de troc, quoi. Genre, le troc, c'est même quelque chose qui n'existe pas, quoi, entre nous. C'est-à-dire que si t'as envie de quelque chose que quelqu'un là, s'il veut te le filer, il te le file, quoi. Y a pas vraiment de troc, quoi.
Mais si demain t'as un besoin matériel, j'en sais rien, tu veux un ordinateur, comment tu vas t'y prendre ?
Tu vois, vu qu'on a un peu de pognon, ce pognon il est collectif, quoi. Tous les mois on a un système comme ça où tu demandes un peu de pognon pour t'acheter ce que t'as besoin ou envie ou quoi que ce soit, quoi. Après, c'est en ton âme et conscience, le collectif jamais te dira non, quoi. Mais la seule limite qu'il y a, c'est le pognon qu'on a, quoi. C'est que si forcément tu veux quelque chose qui sort du pognon qu'on a, tu pourras pas l'avoir, quoi. Mais sinon, il n'y a pas, vraiment de jugement idéologique, quoi, de ce point de vue-là, quoi.
Et t'as pas celui qui va bosser en ville et qui revient ici le soir, tous les gens bossent pour la communauté. T'as personne qui travaille en dehors pour avoir un salaire fixe en étant, j'en sais rien, prof, mécanicien, charpentier.
On n'en a pas ici, ouais. Non, c'est quelque chose qui, je pense, c'est, d'un point de vue idéologique, ce serait un peu triste, quoi, d'avoir besoin de gens salariés pour combattre le salariat, quoi. Mais... Non, il n'y a pas de ça. Après, il y a forcément des gens qui sont nés ici ou qui ont grandi ici. Puis après, qui sont partis pour travailler, qui aujourd'hui sont profs, justement, ou quoi que ce soit. Mais non, ici, il n'y a pas de personnes qui vivent comme ça et qui mettent après leur salaire en commun, quoi. Non, il n'y a pas de ça, non.
Et toi, Marlène, donc toi, tu as grandi, tu es née ici?
Je suis née ici. J'ai pas eu vraiment le choix, mais je regrette pas du tout.
Et quand tu es née ici, tu vas à l'école où ça? À Limon, à côté, c'est ça? Ouais. Le village là-bas.
C'est une histoire avec l'école primaire de Limon, parce que on a porté énormément d'enfants. Je dis on, mais bon.
La communauté, quoi, Longomaille, enfin
ouais,
ici.
Et
qui a permis aux classes finalement de rester ouvertes là-bas.
De rester ouvertes, et à un moment ils voulaient même les fermer. Et on a dû, pendant une année je crois, moi bon, j'étais pas née, hein. Donc c'est un peu vague. Mais il y avait la mère de Alex d'ailleurs, qui était prof, qui était enseignante, qui a fait classe pendant une année, illégalement, je sais pas, un peu de cette façon-là. Mais enfin bref, voilà, il y avait un peu de ça.
Et toi, enfant, dans la communauté, il y avait beaucoup d'autres enfants? Vous étiez nombreux à pouvoir jouer ensemble, grandir ensemble?
Ouais. Je sais pas, une bonne vingtaine au moins.
Ouais.
C'était génial.
C'est incroyable d'avoir ce terrain de jeu, étant gamin, je me mets à ta place quand je vois ça, cette forêt énorme, ces petits hameaux, ces maisons dissimulées. C'est très particulier comme enfance.
Ouais, mais jusqu'à... Enfin, on trouvait ça normal en fait, ouais. Vu qu'on y est né.
Ouais.
Du compte en allant, je sais pas, au collège par exemple, que le monde était un peu différent en fait.
Bah oui, le collège
les
était.
Les autres ont eu d'autres enfances plus similaires
à la masse, quoi, à la plupart des gens.
Pas du tout. C'était assez bizarre.
L'entrée au collège, c'était où pour toi?
Pour Calquier, comme un peu tout.
Bon, ça reste quand même un lieu très rural, donc il y a pas mal d'enfants qui viennent des campagnes. C'est quand même pas comme si tu te retrouves dans une banlieue encore, parisienne. Ou...
Après, le lycée à Jean, c'était plus compliqué. Ouais. C'était un peu en plus en internat, quoi. Mais bon, bref, ça va.
Et maintenant?
Et maintenant, études à Paris, parce qu'il faut bien que je parte, je pense.
Donc là, t'es dans le cursus des études, quoi. Tu continues.
Je suis en licence de lettres modernes à la Sorbonne.
Waouh! Ah ouais, donc là, c'est une vie vraiment radicalement différente. Et comment tu te positionnes par rapport à ce que tu vis là-bas, ce que tu vis ici? Plus tard, t'aimerais retourner vers une vie plus rurale ou plus citadine?
Disons que je pars. Non, pas citadine, ça c'est sûr. J'aimerais bien faire quelque chose. Je ne pourrais pas vivre, je pense, très longtemps. Autre part que dans une vie citadine, ouais, comme tu dis.
Ouais.
Donc voilà.
Tu as quel âge?
19.
Ah oui, t'as le temps, c'est bien.
Donc là, tu vois, c'est le bureau.
Quand tu dis bureau, ça veut dire?
Bah, en fait, c'est là où il y a des postes, il y a des ordinateurs, il y a tout ce qu'il faut pour faire un peu d'informatique et puis de. C'est le point internet, on va dire quoi.
Donc, si tu veux aller faire de l'internet, tu vas là-bas, tu te connectes, tu fais tes mails.
Ouais, bah, y a des gens qui ont internet chez eux, quoi, mais ça reste très rare. Ouais. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de développer parce que, surtout chez les derniers arrivants, moi notamment, ou quoi que ce soit, on a tous connu ce monde-là où, tu sais, tu te connectes 5 minutes à internet et en fait, tu restes 15 heures, quoi. Ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on veut un peu éjecter de nos vies aussi. Donc, ouais, il y a un point internet ici, mais il est un peu loin de tout, etc., quoi. Et puis, c'est là aussi où tu peux imprimer du bordel, faire de l'infographie ou du graphisme. Et puis voilà. Puis juste derrière, t'avais les écuries, il y avait le jardin, avec une grande serre.
Là, t'as du bois, là, t'as une scierie, t'as vachement de.
Là, ouais, c'est là où on prépare le stock de bois pour
le chauffage, pour l'hiver.
Ouais. Puis là, il y a une carrière de caillasse aussi.
Mais il y a vraiment du matos, hein. Je vois une grue, je vois. Enfin, il y a du matériel, quoi.
Ah, ça, c'est pour extraire le.
La pierre, la roche.
Ouais, ouais. Bon, on en a perdu deux.
Elles sont descendues. Elles sont...
Ouais, on a quand même du matos là pour ça, quoi. À peu près. Donc, toi, après, il y a les écuries aussi, il y a la menuiserie. Je sais pas si on va pouvoir passer devant. En retour, on pourra passer devant. Puis ouais, on a quand même du beau matos. Après, il y a ce rapport-là où la plupart des choses qu'on fait ici, c'est pour nous directement, quoi. Ça, ça nous permet de pas trop travailler, de pas retourner dans une logique marchande, etc., quoi. Mais de l'autre côté aussi, c'est que ça fait pas rentrer de pognon non plus, quoi. Et mine de rien, pour pouvoir tourner, rien que faire tourner les machines à menuiserie, il faut de l'électricité, quoi. L'électricité, on la produit pas, quoi. Donc ouais, c'est un bon débat, quand même, quoi. Ce rapport, comme je disais tout à l'heure, entre l'idéologie et le pragmatisme, quoi.
Mais ce débat existe, quoi. Il est posé, il est discuté.
Je crois pas que ce soit si clair que ça, quoi. C'est juste que, moi, après, c'est dans mes réflexions plutôt perso, quoi, tu vois. C'est de me rendre compte que, ouais, qu'il y a quand même ce débat-là qui existe, en fait. C'est de force, on va dire, quoi. Entre l'idéalisme et le pragmatisme, quoi, qui lutte un peu. Bon, c'est pas une lutte armée, hein, mais il y a quand même cette différence-là qui existe, quoi. Et on se rend compte juste quand on parle, quoi. On parle pas forcément de ça clairement, mais si tu peux mettre cette grille-là pour comprendre ce qui se raconte, quoi, quand même. Et puis, ouais, je sais pas trop.
J'aimerais qu'on vienne aussi, on en a parlé avant, mais j'avais pas branché le micro. Aujourd'hui, donc, dans la mouvance des gens qui cherchent une vie autre, vivre autrement, t'as souvent l'écologie qui revient.
Ouais.
Terre paille, indépendance, autonomie. Et ici, à la base, c'était pas du tout ça, c'était pas un écolieu, un éco-village.
Ah non, c'est toujours pas un écolieu, un éco-village, quoi.
Et pourtant, quand tu regardes de près, l'écologie fait partie intégrante de tout ce qui se met en place.
Ouais, mais ça, c'est. Ça, je pense que. Tu vois, la partie idéologique de l'écologie. Elle n'existe pas vraiment ici, quoi. Il y a bien 2-3 personnes ici qui développent ces pensées-là, quoi. Ce rapport à l'écologie, etc. Mais c'est pas le fond idéologique du lieu, quoi. Ici, c'est plutôt une écologie de fait. C'est-à-dire que, fatalement, quoi, si t'as envie de faire chauffer de la flotte, t'as vraiment rien piné, quoi. Si tu te fais chier à faire chauffer une résistance dans un ballon qui tourne au nucléaire, quoi, alors que t'as du soleil au-dessus de ta gueule, quoi. C'est juste une question de logique, quoi. De pragmatisme, en fait, tu vois. Donc forcément après ça peut passer pour de l'idéologie écolo ou quoi que ce soit. Alors que c'est pas forcément ce qui est développé ici, quoi. C'est juste que c'est logique de faire comme ça, quoi. Là, t'as du matériau sur place, gratuit. Enfin, plus ou moins gratuit, quoi. En tout cas, beaucoup moins cher que le nucléaire ou l'essence. Et puis, bah, tu tournes avec ça, quoi. Et puis roule. Après, ça demande qu'à être développé ici, quoi. Parce que, toi, on est encore connecté au nucléaire. Alors qu'ici, il y a une grosse, grosse critique du nucléaire, quoi. Il y a des copains ici qui écrivent des copines qui écrivent des petits opuscules là-dessus, quoi, qui sont hyper intéressants, quoi. Qui ont vraiment une critique très, très poussée du nucléaire, qui sort vraiment du schéma habituel où le nucléaire c'est caca parce que c'est polluant, quoi. Là, ça va quand même plus loin que ça, tout ça. Et pourtant, on est encore connecté au nucléaire, quoi. Donc là, c'est ce rapport aussi à... Tu vois, il y a une forme d'idéalisme, en fait. De dire, bah, tant que ce sera pas parfait, on le fera pas. Donc ça se met pas en place vraiment, quoi. Tu vois, il y a un gros débat aussi sur le photovoltaïque ici. On aimerait bien l'installer, puis en même temps, on n'aimerait pas. Parce que, voilà, c'est quand même toujours, ça appartient toujours aux grands capitaux, etc., tout le bordel. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose de complexe, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je pense que... C'est pour ça qu'il y a une espèce de... d'assez de différence, on va dire, entre les plus anciens arrivés et les plus nouveaux arrivés, c'est que on se sent moins idéologiste aujourd'hui. Enfin, on est moins dans l'idéal aujourd'hui, quoi, peut-être, de la nouvelle génération, quoi.
Vous avez tempéré un peu, quoi.
Je sais pas si on a tempéré, parce qu'on n'est pas plus sage que... Carrément pas. Pas plus sage que les plus anciens, mais... C'est juste que... Tu as vu qu'on a... On a connu un contexte un peu différent, etc. On cherche quand même l'autonomie, quoi, mine de rien. On a envie de ça, parce qu'on se rend compte que... Si l'espèce de bordel qui se passe, on va dire, à côté de chez nous, c'est pas quelque chose qu'on veut, et si on a envie de pouvoir résister à ça, il faut qu'on soit autonome, quoi. Alors que les plus anciens arrivés, même si c'est pas si clairement défini que ça, ils sont plus dans l'idéologie, quoi, dans l'idéalisme, quoi. Dire, bon, il vaut mieux communiquer, faire de la radio, écrire des bouquins ou continuer à communiquer pour que ça change, quoi. Parce que nous, on pourra pas le faire changer. Alors que chez les plus jeunes, c'est plutôt... comment dire ? C'est plutôt l'idée de se dire, bah... Voilà, on le fait plutôt, quoi, que d'en parler, quoi.
Ouais.
Les deux côtés, quoi. L'idéalisme ou le pragmatisme, quoi. Les deux, s'ils sont poussés à l'extrême, ça ressemble plus à rien, quoi. Il faut vraiment les deux. C'est ça qu'il faut vraiment que nous, en tant que derniers arrivants qui sont moins idéalistes que les anciens, il faut qu'on puisse chez eux quand même, quoi. À ce niveau-là. Parce que si on était que pragmatique, bah, on serait une espèce de tribu fermée qui ressemblerait à rien, parce qu'on communiquerait pas avec l'extérieur, et tout ce qu'on fait n'aurait aucun sens, puisque personne ne le connaîtrait, quoi.
Donc il y a vraiment une complémentarité à trouver entre les anciens et les nouveaux, quoi.
Ouais, puis même, entre toutes ces idées qui peuvent les opposer, on va dire, a priori, quoi. Ouais. Ce rapport, justement, aux idées et à quelle action on veut faire, quoi. Parce que les actions sur le terrain, un peu politiques, les manifestations, etc., je crois qu'on en veut... Enfin, moi, en tout cas, c'est pas vraiment ce que je ressens comme être une solution, quoi. Tu vois, on peut aller manifester comme on veut, je crois que c'est pas comme ça que ça...
Non, faut le vivre, faut l'incarner, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, ouais, c'est passer l'exemple, vivre l'exemple.
Ouais, je crois que c'est pour ça qu'il faut être un peu plus pragmatique à ce niveau-là, quoi. Ouais. C'est pour ça que peut-être, toi, d'un point de vue... Juste pour prendre l'exemple de l'énergie, qui est quand même assez conséquent, en fin de compte. Tu vois, on peut continuer à communiquer sur le nucléaire, dire que c'est de la nionnette, etc., de la merde, et tout ce que tu veux. Mais je crois qu'il faut quand même incarner l'exemple aussi, quoi. Dire que bah, regardez, c'est de la merde, mais il y a d'autres solutions qui existent, quoi. Sans oublier aussi la partie politique, de dire c'est pas parce qu'on remplace le nucléaire par autre chose qu'il faut faire la même chose derrière, quoi. C'est pas parce qu'on met des éoliennes ou du photovoltaïque ou tout ce que tu veux pour produire de l'énergie qu'il faut qu'on fasse les mêmes merdes qu'avant, quoi. C'est-à-dire que cette énergie-là, il faut qu'elle soit utilisée à autre chose. Et
après, j'aime bien rappeler cette phrase aussi, la meilleure des énergies, ça reste quand même celle qu'on consomme pas. Donc c'est déjà à nous, dans le quotidien, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut minimiser sa consommation d'énergie, quelle qu'elle soit.
Ah ouais, bah après ça, en plus, c'est une espèce de redondance, je dirais, d'antiproductivisme, quoi. Dire, bah, du moment où tu fais moins de choses, bah t'as besoin de moins de choses, quoi. Parce que tu dépenses moins d'énergie, t'as moins besoin d'aller travailler, t'as besoin de tout ça. Donc ouais, c'est clair que se faire chier à vouloir produire de l'énergie pour en consommer plus, c'est un peu con, quoi. Autant essayer de la réduire clairement, quoi. Mais ça, c'est, ça fait partie de l'idée antiproductiviste, quoi, de dire bah je peux vivre avec moins, ça me va comme ça, quoi. J'ai pas besoin de courir comme un connard pour tourner en rond, quoi. Je peux tourner en rond lentement aussi, quoi.
On n'a pas du tout parlé du côté alimentaire ici. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on produit? Hier c'était soirée pizza. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté d'être autonome au niveau alimentaire?
Ouais, beaucoup plus que d'un point de vue énergétique, par exemple, ouais. Parce que déjà, il y a un poil plus de gens sur le sujet, puis des gens qui sont vraiment
vraiment très très connaisseurs sur le sujet, quoi. Puis qui aiment ça. Bon, après, je crois qu'ils sont pas assez nombreux aussi, les gens au jardin ou tout ça, mais je crois qu'on produit quand même une bonne partie de notre bouffe, quoi. Après, il y a une bonne partie aussi qu'on achète notamment l'hiver ou quoi que ce soit. On va souvent faire les courses aussi pour pouvoir bouffer, quoi. Après, notre viande, par contre, c'est que la nôtre. On produit toute notre viande. On n'en mange pas tous les jours, hein, mais on prend notre bidoche. Les légumes, on en produit quand même une bonne partie, quoi. Mais c'est encore pas assez.
Donc là, on parle pas de légumes bio, mais forcément, ça va. Pareil, ça coule le sens, quoi. Bah, quand t'es dans une démarche, les produits chimiques, tu les bannis, quoi.
Bah oui, ça coûte du pognon, c'est de la. Plus, ça pourrit tes sols, ça t'empêche d'être. De pouvoir durer, quoi. Alors ouais, voilà, c'est logique que ce soit bio, en fait. Je crois pas que les gens du jardin sont des gens qui font des câlins aux arbres, quoi. Je crois que c'est juste plutôt des gens qui sont un peu pragmatiques, justement, sur le sujet, quoi. Ça nécessiterait un peu plus d'engagement de la part de tout le monde, en fait. Le jardin, le. Et toi, c'est encore le fameux sujet sur le. C'est ce qu'on veut être autonome ou pas, quoi.
Mais t'as des choses écrites quand même, t'as une charte Longomaille, t'as des valeurs qui sont inscrites ou pas du tout.
Non, y a rien inscrit, quoi. Je pense que ça tend à fluctuer avec le temps qui passe, quoi. Mais ouais, y a quand même des valeurs, on va dire, quoi. Quand tu vis ici, tu vis avec tout le monde, tu vis pas comme un ours dans ton coin. C'est ces trucs de. Toi, c'est encore des valeurs de fait, quoi. Parce que si t'as envie de vivre ici, tant que ça se passe bien avec tout le monde, faut vivre avec les gens, quoi. Mais sinon, y a rien d'écrit, quoi. Putain, t'imagines s'il y avait des trucs figés dans le papier, quoi. Putain, non. Non, surtout pas, ouais. Je crois qu'en plus, ça c'était même. S'il devait y avoir une charte, ce serait celle-là, quoi.
Ne pas rien écrire, quoi, rien figé.
N'écrivez pas de charte, quoi. Ouais, je crois que ça figerait trop. Et puis, il y a un truc aussi, je pense que ça fait partie de l'idée, quoi. Pas de Longomaille en particulier, mais d'anarchisme en général, quoi. C'est de dire que les règles, elles n'ont pas de sens parce qu'elles correspondent à une époque, à un contexte bien donné, quoi. Tu vois, s'il y a une règle secrète, c'est par rapport à un problème donné, à une situation donnée. Et rien ne dit que cette situation ne va pas changer, quoi. C'est pour ça que c'est compte figé sous forme de règles, des comportements, quoi. Parce que le monde, il change tout le temps et qu'on ne peut pas se permettre de figer des comportements dans le temps, quoi. Donc voilà, écrire une charte ici, ça n'aurait pas de sens. Parce que ce qui se passait ici il y a 40, 30, 20 ans, ce n'est pas quelque chose qui pourrait exister aujourd'hui, quoi. Tu vois, le comportement doit changer aussi parce qu'on n'est plus dans la même époque, parce que l'engomage a changé, c'est plus les mêmes individus. Et donc, fatalement, ouais. Écrire une charte, ce serait un non-sens, quoi.
Longomaille, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est à le côté un peu international. T'as pas que des Français qui sont là. Ouais, t'as vraiment différentes nationalités, t'as ce brassage ethnique.
Ah bah ici, on a au moins une dizaine de nationalités différentes, ouais. Ouais, bah, je pense qu'il y a un bon tiers de Français, un bon tiers d'Allemands. Et puis après, t'as les Autrichiens, des Chinois, Tunisiens, Suisses, Algériens, Italiens, Espagnols, Anglais. T'as tout ce brassage-là, quoi. Alors, le truc, c'est marrant, c'est que tout le monde parle plus ou moins français, donc ça cause quand même pas mal français. Mais bon, ça arrive des fois à une même table que t'es trois langages différents qui s'expriment, quoi. C'est très très rigolo, quoi. Ça crée une belle ambiance, en fait, quoi. De se dire que c'est pas ça qui. Déjà, c'est pas une barrière, la langue, quoi. Et que toutes les conneries qu'on a pu nous raconter quand on était gosse avec ces histoires de frontières ou quoi que ce soit, ça n'a aucun sens, quoi.
Un autre truc là, c'est marrant quand on se prend. Hier, quand on arrivait, il y avait plein de monde. C'est marrant, t'arrives sur Longomaille, tu vois pas beaucoup de monde, et puis au fur et à mesure que t'avances dans les forêts de chênes, la plus baissante, tu vois une yourte, une caravane, un camion, et tout à coup tu te retrouves dans un endroit, ce lieu qui est celui-là maintenant, où t'as 100 personnes.
Ouais.
Donc c'est vraiment ça, c'est les habitats sont complètement dissipés un peu partout, mais il y a quand même des moments phares où vous retrouvez tous ensemble.
Tous les jours quand on se retrouve. Bah, pour le petit déj, ça dépend parce qu'on se lève pas tous à la même heure. Après, il y a le repas du midi qu'on fait tous ensemble, puis le repas du soir qu'on fait tous ensemble aussi, quoi. Après, ça arrive que des fois, ça pas track ou que t'es pas forcément envie de voir des gens. Ou ouais, tu vas passer le midi dans ta piole et puis tu cherches un bout de pain ou quoi que ce soit, quoi. Mais sinon, en général, on vit tous ensemble. Et puis, quand il y a des fêtes, c'est pareil, on essaie de tous se retrouver. C'est de vivre ensemble quand même, quoi. C'est un peu l'idée du lieu. Donc oui, c'est pour ça que ça fait un peu étrange quand t'as des événements un peu qui se passent. Genre, comme hier soir, la fête, quoi. Il faut y avoir ici, c'est que tout le reste de la coopérative, c'est une espèce de désert, quoi.
Ouais.
Tu vois juste des 3-4 gugus qui errent, là, on sait pas trop ce qu'ils font. Toutes les maisons sont vides et puis en fait, tout le monde est ici, quoi, en train de picoler, manger et danser, ouais, c'est ça.
Et là, donc, on est sur un nouveau lieu, c'est ça. Nicolas me disait, c'est un lieu c'était une ruine avant, qui était complètement retapée.
Ouais, c'est, on appelle ça Saint-Hippolyte ici, ouais. C'est quand même c'est un vieil hameau, mais bon, en plus, c'est un château qu'autre chose, quoi.
Ouais.
Tout en pierre, là, c'est un truc de fou furieux. Mais ouais, ils ont tout retapé depuis ce temps-là, quoi.
Mais là, il y a des chambres, alors, ou des appartements, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces...
Ouais, il y a quelques pioles, quoi, il y en a là, au-dessus. Mais sinon, principalement, Ici, ouais, c'est quand même un lieu de vie, enfin, un lieu dortoir, quoi. Mais t'as aussi une boulangerie. C'est là où on fait notre pain hebdomadaire. Okay. On a là juste à côté, c'est le coin des sorcières, quoi. C'est là où à fond toutes les huiles essentielles, etc. Toldawa, celles qui prennent soin de nous, quoi.
Toi, t'es là donc depuis combien de temps? Tu disais 15 jours.
15 jours exactement.
Et quand tu arrives comme ça, tu es hébergé où?
Alors il y a une unité qui s'appelle FATSA. C'est ouais. L'accueil pour les nouveaux arrivants. On est accueillis par les anciens. Il y a quelques anciens qui sont là-bas déjà depuis plus d'un an. Donc qui t'accueillent, qui te montrent un peu les lieux, qui te font découvrir un peu le lieu. Et là, en fait, c'est ma première visite aujourd'hui de la totalité. Ça aurait dû être fait la semaine dernière, mais bon, on était pris par la fête qu'il y a eu, la fête de la radio. Donc voilà, donc j'essaie de m'intégrer au jour le jour, de m'intéresser à ce qui se fait de différent ici. L'agriculture. Là, ben, en fait, là, ici, on est à Hippolyte, et c'est un projet qu'ils ont de continuer à reconstruire l'étage. Et donc, j'en ai discuté avec Nick et Anglais ici, qui a participé déjà à la première construction, et qui veut que je lui donne la main. Il y en a pour 5-6 mois ici de travaux, taillage de pierre. Donc, on va déjà monter les échafaudages, et après, il va me former au taillage de pierre. Très intéressant.
Et toi, tu vas plus t'impliquer sur cette partie bâtiment, quoi, construction ici.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ça va être la base d'un travail, d'un projet qui va durer 5-6 mois. Donc, donc, ils cherchaient une équipe et je me suis porté volontaire. Au départ, je me suis plutôt intéressé au projet, donc monter les échafaudages. Après, il m'a parlé du taillage de pierre, de remonter un peu un étage avec les pierres. Donc, voilà, j'ai été très intéressé par ce projet. Voilà.
Et toi, à la base, tu viens de quel domaine de compétences avant d'arriver ici?
Alors moi, à la base, j'ai un diplôme, j'ai un DUT. Et j'ai travaillé 10 années dans un peu la maintenance industrielle. Ensuite, j'ai plutôt été chef d'équipe, manager de production dans une usine. Au bout de 10 années, la boîte a un peu tangué. Il y a eu des problèmes financiers. Le groupe a décidé de restructurer un peu les différentes entreprises. Donc il a fallu licencier des personnels. Il y a eu des départs volontaires. Et comme j'en avais un peu ras-le-bol... Je me suis proposé un départ volontaire.
C'était l'occasion de changer de vie, quoi.
Voilà. Moi, c'était l'occasion de changer d'abord de métier, de voir autre chose. En fait, moi, c'est plus la société dans laquelle on vit, la société industrielle qui me plaît plus, quoi. Le système en lui-même, quoi, qui me plaît plus, quoi. Métro, boulot, dodo, ça me convient plus. Je ne m'y sens plus à ma place, quoi. Mm-hmm. Et je trouvais une alternative à cette vie.
Et comment ton environnement a accueilli ton choix, tes gens, tes proches, ta famille, tes amis, quand tu leur as dit « bon bah, je vais essayer d'aller m'insérer dans une communauté anarchiste à Longomaï »
Non. En fait, ma famille proche vit en Algérie. Donc je n'en ai pas vraiment parlé. J'ai dit que j'allais voir un ami qui vit dans une communauté. Donc je n'en ai pas parlé du projet en détail. J'attends d'être bien installé si jamais je m'installe ici. Pour leur en parler. Sinon, mes amis proches, bon, ils m'ont dit que j'étais un peu fou, un peu. Ils m'ont trouvé un peu bizarre sur le coup, mais voilà, c'est. En fait, vu que je me sentais pas très bien dans ma société, la seule alternative qu'on me proposait, c'est pour mon stress, pour mon mal-être, on me proposait des traitements antidépresseurs, anti-machin, et ça, moi, non, c'est pas des médicaments qui vont soigner mon mal-être. Je le connais, mon mal-être.
Mais c'est juste pour faire le passé, le présent et non le passé, le avant et le maintenant. Donc Longomaï, quand ça a commencé, c'était quoi aux origines? Quel était le projet derrière Longomaï?
Le projet au départ de Longomaï, c'est les militants qui étaient en ville, qui savaient qu'ils allaient se faire déglinguer en ville et qui sont partis des villes pour construire quelque chose réellement dans les zones abandonnées où plus personne voulait être. Ils se sont dit plutôt que de se faire massacrer en ville. Qu'on n'arrive à rien, des combats perdus d'avance, ils se sont dit on va construire quelque chose. Voilà.
Et toi, ta rencontre avec Longomaï?
76.
Donc la communauté était déjà établie ici, il y avait déjà quelque chose qui se passait?
Ça faisait déjà 3 ans que ça avait commencé.
Et c'est quelque chose qui a vite pris de l'ampleur? Comment est-ce que tu as entendu parler de ce projet et pourquoi est-ce que tu as voulu t'y insérer?
Oh, c'est toute une histoire de famille qui ont fait que je suis arrivé là. Mais bon. De frangin à frangin, voilà.
Et te voilà là depuis maintenant quelques années, hein, 76. En plus, cette année, je crois que Longomaï va fêter ses 40 ans. 40 ans d'existence. Et si tu devais expliquer juste en quelques mots, Longomaï, c'est quoi aujourd'hui?
Longomaï? Peut-être l'avenir, je sais pas. J'espère.
On inspire, on expire, on respire, on souffle.
Carbone zéro.
Une émission pour semer des idées,
planter des projets,
récolter des solutions, afin que le monde et la Terre tournent plus rond.